tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Marie-Christine de Heuvels, à la technique Simon Martin. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Christian Mercier qui va nous parler de Luther et de l'influence du protestantisme dans la société d'aujourd'hui. Ce sera sur les 7 semaines, et puis la semaine prochaine, vous aurez donc la suite. Bonjour Christian.
Bonjour Marie-Christine, et merci de ton accueil. Donc effectivement, je souhaite vous donner quelques lumières, ou du moins quelques éclairages sur Luther aujourd'hui. Et donc vous présenter dans un premier temps sa vie, quelques dates importantes, et... la semaine prochaine, je vous parlerai de son influence et de son héritage dans la société d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, donc, sa vie et également son enseignement et sa foi. Alors, quelques dates. Il est né en 1483. Il est décédé en 1546. Pourquoi Luther ? Parce que vous savez que l'année dernière ont été fêtés les 500 ans des thèses, des 95 thèses qu'il avait affichées au château de Wittenberg, le 31 octobre 1517, très précisément. Et on peut considérer que c'est à partir de ce moment-là que le mouvement de la réforme, qui ne s'intitulait pas de cette manière-là à l'époque, mais le mouvement d'une religion revisitée, est né. J'ai pensé à parler de Luther parce que j'ai assisté à la grande manifestation protestante qui s'est tenue à Strasbourg, à la grande fête du protestantisme, les 28, 29 et 30 octobre 2017. Vous savez que le protestantisme fait parler beaucoup de lui en ce moment. Vous avez des philosophes qui rédigent des ouvrages, Régis Debray, que je ne vous présente pas, mais que vous connaissez bien, qui est un philosophe qui a beaucoup évolué dans son existence. Moi, je l'ai connu chez Guévariste et emprisonné, et puis qui maintenant semble avoir totalement changé à 180 degrés d'opinion. Et il a commis un ouvrage qui s'appelle « Le nouveau pouvoir », dans lequel il salue la victoire de ce qu'il appelle le néo-protestantisme. Et il pense que... je pense qu'il fait allusion également au président de la République actuelle, dont vous savez qu'il est disciple du philosophe protestant Paul Ricoeur. Mais j'y reviendrai plus loin. Donc parlons de la vie de Luther. Luther, on peut dire qu'il a eu une vie hors du commun, une vie très riche, une vie quasi romanesque, et on peut dire que c'est un personnage. Un personnage, qui dit personnage, dit un caractère. C'était vraiment quelqu'un qui avait un caractère trempé. Pour le situer, vous avez entendu sa date de naissance, 1483. Eh bien, deux dates, avant et après sa naissance. 1450, c'est l'impression par Gutenberg de la première Bible. Donc, impression et par la même diffusion de la Bible beaucoup plus aisée. Pour les personnes qui savaient lire, on n'était plus à la Bible recopiée par des clercs à la main. Et 1492, découverte des Amériques par Christophe Colomb. Donc, Luther naît dans un milieu assez aisé. Son père, qui s'est enrichi dans des mines. Son père lui donne une éducation et une instruction, plus exactement, digne de quelqu'un d'aisé. Il est donc né dans l'Allemagne moyenne, à Erfurt, non loin de Weimar, dans le centre de l'Allemagne. Et sa première formation, eh bien, c'est le droit. Il part poursuivre des études de droit. Et puis, il lui arrive une première aventure romanesque, on peut dire. C'est 1505, donc il a 22 ans. Il rentre de l'université ou de la faculté et il est pris dans une tempête. Mais une tempête et un ouragan terrifiant. Il est tellement terrifié qu'il forme un vœu et qu'il dit, s'adressant à Sainte Anne, « Sauve-moi, Sainte Anne, et je me ferai moine. » Il est sauvé, il se fait moine. C'est un homme de conviction, Luther. Il prend des engagements.
Un homme de parole.
Un homme de parole. Et donc, il entre chez les Augustins. Et comme c'est un sujet brillant, il progresse très vite et on lui donne des responsabilités importantes à telle enseigne qu'il est chargé un jour d'aller à Rome pour, je ne sais quelle mission particulière, j'imagine donner des lettres ou communiquer. Et il est saisi par un spectacle, c'est celui de la rénovation de la basilique Saint-Pierre. Rénovation à grands frais, décidée par le pape de l'époque. Et il faut savoir que cette rénovation était financée notamment par ce qu'on appelait les indulgences. Et j'y reviendrai bien sûr ultérieurement, puisque les 95 thèses de Wittenberg, c'était bien tout de même pour dénoncer les indulgences. Je souhaite également vous dire quel était un peu l'atmosphère, si l'on peut dire, enfin la manière dont les fidèles vivaient leur foi à l'époque. Il était, à l'époque, c'était érigé comme une sorte de ligne de conduite du clergé. C'était mettre en avant la peur de l'enfer et de la justice de Dieu, un Dieu impitoyable. Et le fidèle, eh bien, se trouvait confronté à cette peur, cette angoisse de l'enfer. Si bien que le clergé avait imaginé de créer un nouveau séjour entre l'enfer et le paradis. Il s'était dit, on va créer le purgatoire. Le purgatoire, eh bien, c'est un lieu où l'on purge pendant un certain temps avant d'accéder au paradis. Et l'idée, c'était de dire, eh bien, voilà, on va acheter des années d'attente. Donc pour attendre moins au paradis, on va payer de l'argent sous forme d'indulgence et ces indulgences vont nous permettre d'accéder au paradis plus rapidement. C'était une manière de combattre la peur de l'enfer qui était, encore une fois, opposée ou du moins qui dans laquelle baignait la chrétienté. Et Luther, qui était un intellectuel brillant, je l'ai dit, lit Paul, ses épîtres, lit saint Augustin, et il découvre le message libérateur de la grâce, qui est dans Paul. Donc le salut vient par la grâce. Et à partir de là, il est soulagé d'une crainte et d'une angoisse qui le pénétrait, enfin dans laquelle il vivait, et il veut communiquer, il veut faire partager cette délivrance autour de lui, et notamment autour du clergé. Et il veut convaincre tous ceux qui sont à côté de lui, soit dans son monastère, soit à l'extérieur. Et il veut convaincre que, eh bien, non, Dieu n'est pas un Dieu justicier. Dieu est là pour accorder gratuitement sa grâce. Gratuitement, vous avez bien entendu. Et c'est là que va commencer à, comment dirais-je, vont commencer les difficultés. Il est tellement convaincu d'ailleurs que les indulgences sont quelque chose qui est contraire à la grâce gratuite qu'il va rédiger ses 95 thèses qu'il va afficher au château de Wittenberg. Et je vous en cite une d'indulgence, c'est la numéro 67 qui dit « Les prêtres louent les mérites des indulgences. Le seul mérite qu'elles aient, c'est de rapporter de l'argent. » Donc vous voyez que ce sont des propos qui sont assez vifs, aux confins de la provocation, mais qui vont évidemment faire grand bruit. Et alors, contrairement à ce qu'il imaginait, ces fameuses thèses vont être diffusées. Il ne pensait pas qu'elles auraient une diffusion importante, et bien si. elles sont diffusées, tellement diffusées qu'il est menacé d'excommunication. Nous sommes en 1521, donc 4 ans après ses thèses. Il est menacé d'excommunication et il est convoqué à une diète, la fameuse diète de Worms. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une diète ? Une diète, c'est une assemblée qui réunit des laïcs et des religieux. Et devant la diète, il est sommé de se rétracter et de renoncer à ses thèses et donc à sa condamnation des indulgences. Il lui est laissé une nuit pour réfléchir et le lendemain, eh bien, il déclare publiquement qu'il refuse de se rétracter et d'agir contre sa conscience. Donc le terme de conscience est très important parce que ça renvoie à quelque chose de personnel et d'individuel. J'y reviendrai par la suite. La diète considère que c'est une insulte et à la papauté et à l'empereur Charles Quint, et donc il est certainement envisagé, je dis bien certainement parce qu'on n'en a pas forcément de certitude, mais il est certainement envisagé de faire disparaître Luther. Cette même année 1521, il faut dire que Luther fait ce qu'il faut pour provoquer et se mettre à dos toute la papauté et tout le clergé. Il brûle publiquement une bulle papale qui s'appelle « Exsurge Domine » et donc il est excommunié. Alors, deuxième événement romanesque, je vous ai parlé de la tempête, et bien là, c'est le retour de Worms. Il revient de Worms pour regagner son domicile ou, pour regagner son monastère, et il est enlevé. Il est enlevé sur sa route. Et il croit sa dernière heure arrivée parce que justement, il savait que des menaces pesaient sur lui. Et il est emmené au château de la Wartburg. Par qui ? Eh bien, par en fait des personnes qu'a commandité Frédéric II de Saxe, qui est le grand électeur, et qui souhaite que Luther continue à propager ses idées. Donc, il est emmené non pas pour être emprisonné, mais pour être protégé. Et à cette occasion, eh bien, il est obligé de rester enfermé dans ce château, ou pratiquement tout le temps enfermé. Il laisse pousser ses cheveux, sa barbe. Et comme il s'ennuie, eh bien, il entreprend la traduction du Nouveau Testament en langue allemande. Il a des visions. Ça, c'est encore un petit épisode romanesque. Un jour, il croit voir le diable. Et il lui jette son encrier à la tête. Et on a encore des traces de l'encre de l'encrier au château de Wartburg. Dans les années qui suivent, je le dis pour l'anecdote parce que Martin Luther n'est pas un saint, il refuse de s'associer à la révolte des paysans. Il faut dire qu'à l'époque, les paysans profitent un peu des circonstances pour se révolter contre les princes. Et Luther est très légitimiste, si l'on peut dire. Il ne veut absolument pas se mettre à dos l'autorité, donc il refuse de s'associer à la révolte des paysans. Ce qui lui sera reproché plus tard. 1525, je dirais troisième épisode romanesque, il se marie. Il se marie à l'âge de 42 ans, alors pas forcément par amour, mais parce que justement, il veut provoquer la papauté et donc un prêtre qui renonce à ses vœux, mais qui se marie, c'est encore une provocation de plus. Et provocation sur la provocation, avec qui se marie ? Il se marie avec une moniale de 26 ans, Katharina von Bora, qui elle-même s'est enfuie d'un couvent avec 8 autres nonnes dans un tonneau à Aran. Donc vous voyez comme c'est original tout ça. Bon. Il se marie avec une nonne qui a également révoqué ses vœux et il en aura 6 enfants. Et la même année, il fonde une nouvelle église, alors même qu'au départ, ça n'était pas du tout ce qu'il souhaitait. En 1530, le schisme est consommé. Il faut savoir que les princes du Saint-Empire, les princes qui étaient donc les grands électeurs de l'Empire romain germanique, eh bien en fait fronde, si l'on peut dire, contre Charles Quint et ils estiment qu'ils mettent au point, ils s'associent au texte fondateur du luthéranisme, qui est la confession d'Augsbourg. Donc vous avez compris une imbrication entre la politique et la religion par cette confession d'Augsbourg. Luther obtient un appui Et les princes électeurs, en fait, mettent au point, enfin, en tout cas, érigent en principe une règle qui se traduit par la formule latine « cuius religio et ius religio ». Donc, la religion est à, comment dirais-je, chaque prince a sa religion et on a la religion de son prince. Dernière petite anecdote sur la vie de Luther. Ça a été un grand ami de Mélenchon, j'ai bien dit Mélenchon, de C-H-T-H-O-N, qui était un grand réformé et qui a été associé justement à cette confession d'Augsbourg. Donc, pour en terminer avec la vie, une vie assez romanesque, une vie de recherche de vérité, une vie de soif de Dieu, une vie de provocation qui lui attirera beaucoup de menaces de mort pendant toute sa vie et qui, du coup, provoquera chez lui des propos antipapistes assez violents. Il dira un jour, et j'en terminerai sur ce point, « Vivant, je suis une peste pour vous. Mort, je serai votre mort. » Mais nous allons voir que l'enseignement de Luther, ça n'est pas la mort, c'est au contraire la vie. Donc nous allons passer à la deuxième partie de notre exposé de ce matin. Bien, vous avez entendu un motet, enfin le début d'un motet de Jean-Sébastien Bach, Lobet den Herrn, donc louer le Seigneur. Et je pense que c'est une excellente introduction à l'enseignement de Luther, qui a été non seulement un grand penseur, mais qui a été également un grand promoteur et un grand musicien. Et très, très, très mélomane, mais également compositeur. Et vous avez certainement reconnu au début de cette émission le cantique de Luther tel que Mendelssohn l'a revisité au XIXe siècle. Mendelssohn, qui était un juif converti au protestantisme, enfin en tout cas dont le père était un juif converti au protestantisme, et qui a donc composé une symphonie, c'est la numéro 5, qui s'appelle La Réformation, tout simplement parce que à la fin de sa symphonie, eh bien, il expose dans ce beau morceau de flûte solo le cantique de Luther qu'il va ensuite développer dans le dernier mouvement de sa symphonie. Donc l'enseignement de Luther, on a l'habitude de dire qu'il repose sur des piliers. Alors j'en ai recensé cinq, mais ça n'est peut-être pas exhaustif. Premier pilier, et tout cela est en latin, car bien sûr il était moine à l'origine, Luther, et donc c'était quelqu'un de très au départ de très respectueux de tout ce qu'il avait appris, et notamment de saint Augustin, je l'ai dit. Donc sola gloria Deo, la gloire seulement la gloire à Dieu. Donc le chrétien doit vivre pour rendre gloire à Dieu, sola gloria Deo. Ensuite, vous avez le sola fides. Là, c'est peut-être le fondement de l'enseignement du message nouveau de Luther. Seule la foi compte. Donc, le fidèle est justifié par la foi qui est une confiance en Dieu. Et il est justifié par la foi, mais non par les œuvres qu'il peut accomplir et non justifié par le mérite qu'il peut avoir. Donc là, vous avez quelque chose qui sera une pierre d'achoppement pendant très longtemps et qui, heureusement, en 2017, semble ne plus l'être. Justification par la foi et non les œuvres ou le mérite. Et vous avez compris que cela condamne évidemment les indulgences, puisque ça, on ne peut pas acheter son salut. ce qui renvoie donc à la grâce gratuite, justification par une foi, et en retour, la grâce gratuite. C'est ce qui s'appelle également sola gratia. Sola gratia, la grâce seule sauve, la grâce est gratuite. Ensuite, vous avez solus Christus. Le seul médiateur, c'est Dieu, c'est le Christ, à l'exclusion, donc, et c'est là également une grosse pierre d'achoppement, à l'exclusion des intermédiaires que peuvent être les prêtres et le pape. Donc, le Créateur s'adresse directement à la créature s'adresse directement à Dieu, et Dieu s'adresse directement à la créature sans intermédiaire. Christ est le seul médiateur, à l'exclusion des autres. Sola Scriptura. La seule écriture qui vaille, c'est la Bible. Donc la Bible nourrit la relation avec Dieu, c'est une parole vivante qui sert de médiation et une parole où souffle l'Esprit de Dieu. Cela explique pourquoi d'ailleurs l'invention de l'imprimerie a été si importante, pourquoi cette date de 1550 de traduction de l'imprimerie par Gutenberg a été citée par moi, et pourquoi aussi Luther, pendant son séjour à la Wartburg, a traduit en langue de son pays, en langue vernaculaire, a donc traduit la Bible en langue allemande. Ensuite, vous avez, donc en fait, j'en suis déjà au sixième pilier, mais ce n'est pas très grave. L'Ecclesia Reformata Reformanda. Ecclesia Reformata Reformanda, ce qui signifie l'Église doit évoluer constamment, l'Église réformée se réforme. Donc, rien n'est figé. Et l'Église ne doit pas s'asseoir sur des acquis définitifs. En fait, l'Église vit et l'Église n'est pas quelque chose de mort. Il y a un mouvement, il y a une vie, il y a un courant. Et puis, vous avez cette notion de sacerdoce universel. Pour une fois, ça n'est pas du latin, qui est très protestante, qui est, personne ne peut revendiquer être prêtre et avoir une sorte de privilège de d'être l'intermédiaire. Ça rejoint le sola fides ou sola Christus, solus Christus, pardon. Donc le laïc peut prêcher, le pasteur peut prêcher, mais il n'y a pas d'exclusivité de l'un ou de l'autre. Alors, quelques autres pistes de l'enseignement de Luther qui sont beaucoup plus pratiques. Tout d'abord, Luther est l'homme de la joie. Pourquoi la joie ? Parce que pour lui, la tristesse procédait du diable. Et s'il en est un qui s'est inspiré certainement de son enseignement, c'est Jean-Sébastien Bach, qui était donc un luthérien. Sa musique, c'est une musique, je parle de celle de Jean-Sébastien Bach, c'est une musique de foi, mais c'est une musique de jubilation, d'exaltation, une musique d'envol. C'est vraiment l'illustration qu'il fallait pour l'enseignement de Luther. L'enseignement de Luther, c'est également privilégier le couple du mariage, la femme n'est plus subalterne, en tout cas est érigée comme une personne à part entière. Pourquoi ? Parce que c'est également une créature. Vous avez également dans l'enseignement de Luther la promotion du travail, ce qui est à l'époque quelque chose d'assez révolutionnaire, parce que à l'époque vous aviez le clergé, vous aviez l'aristocratie et puis vous aviez ceux qui travaillaient. Eh bien non, le travail, c'est quelque chose qui est une valeur luthérienne importante, et Dieu sait s'il y aura ensuite dans la société française, mais également dans les sociétés anglo-saxonnes, des applications pratiques importantes. Donc, qui dit couple, mariage, dit condamnation du célibat. Donc, autre grosse pierre d'achoppement. Fin de la diabolisation de l'argent, le prêt à intérêt sera autorisé dès que Calvin lui-même interviendra quelques années plus tard. Donc vous avez une vision nouvelle qui clôt le monde féodal qui était jusque-là le monde de la chrétienté. Je ne vous ai pas parlé des deux sacrements du protestantisme au lieu de sept, le baptême et la Sainte Cène, et tous les autres sont, d'après Luther, consacrés par la Bible, qui est la seule référence. Voilà, donc j'ai terminé cette première partie, et nous allons pouvoir à nouveau entendre le cantique de Luther, qui s'appelle... unser Gott, ein Festburg ist unser Gott, pardon, notre Dieu est une fortification solide. Toujours par Mendelssohn.
Merci Christian pour ce côté historique, et nous verrons donc la semaine prochaine l'influence du protestantisme dans la société, comment le protestantisme a fait évoluer la société et s'est aussi très bien adapté à la société. Merci donc, et puis au revoir et à bientôt.